Rencontre spirituelle, aujourd'hui il sera question de Saint Nicolas de Flux. Certains le connaissent bien, mais d'autres n'en ont peut-être jamais entendu parler, et pourtant, c'est un saint absolument étonnant. C'était un homme politique important en Suisse. Il est devenu le patron de la Suisse. Il a vécu de 1417 à 1487. Il était père de famille aussi. Et, chose étonnante, vous le verrez tout à l'heure, il est devenu ermite. Il est donc le patron de la Suisse, et sa fête a été fixée dès l'année 1948, à l'occasion de sa canonisation, au 25 septembre. En Suisse, c'est une fête extrêmement importante, c'est une fête avec un octave, c'est-à-dire qu'on recélèbre au bout de 8 jours. Il y a une messe, un office propre que l'on retrouve d'ailleurs dans le bréviaire dont se servent actuellement les prêtres, les communautés et bien des laïcs, la liturgie des heures, et l'on retrouve dans le propre de la Suisse, à la page 1175 du quatrième volume, que Saint Nicolas de Flux est bien le patron principal de la Confédération helvétique. On résume sa vie en quelques mots, tout d'abord, et ensuite je vais vous faire la lecture, plus ou moins, d'un très vieux texte qui date de 7 ans après sa mort. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Dans le bréviaire, ou si vous préférez, dans la liturgie des heures, on écrit ces quelques 5 lignes. Nicolas de Flux, 1417-1487, l'ermite au canton d'Unterwalden, était père de 10 enfants. Du consentement de sa femme, il se retira dans la solitude où il passa les 19 dernières années de sa vie. Curieux, n'est-ce pas? Il n'en sortit que pour rétablir la paix entre les cantons helvétiques qui étaient sur le point de sombrer dans la guerre civile. C'est donc un grand pacificateur, mais c'est un saint qui a vécu un peu comme Marthe Robin. Vous connaissez Marthe Robin? Il y a tellement de livres qui ont été publiés sur cette femme qui est morte, si je me souviens bien, en 1981, qui a vécu pendant 50 ans sans manger, sans boire, et même sans dormir. Ça a été observé par les gens les plus sérieux. Comme, d'ailleurs, le phénomène de Nicolas de Flux a été observé aussi dans son temps, vous verrez ça tout à l'heure. Pour ce qui est de Marthe Robin, vous pouvez lire des ouvrages de Jean Guiton, membre de l'Académie française, de Marcel Clément, philosophe, de l'abbé Raymond Perret, Petite vie de Marthe Robin, vous savez, dans la collection Petite vie, publiée chez Desclée de Brouwer. Le livre de Marcel Clément est publié chez Fayard. Et celui de Jean Guiton, vous l'avez en livre de poche. Oui, dans la collection Livres de poche. Il y a bien d'autres livres. Oh, il y a celui de Monique de Huertas, aussi du frère Ephraim, le fondateur de cette grande communauté des Béatitudes. L'année dernière, je vous avais parlé aussi de quelqu'un de bien extraordinaire, n'est-ce pas, à la même date. Je vous avais parlé de Padre Pio, ce stigmatisé capucin. Ça avait été une émission extrêmement populaire. Certains voulaient que j'y revienne cette année. J'y reviendrai plutôt l'an prochain. Ou peut-être même dans 2 ans, si Dieu me prête vie. Alors, pour ce qui est de Nicolas de Flufu, ça s'appelle F majuscule L-U-E. Il était mort le 21 mars 1487. On hésite à fêter sa fête ce jour-là, à cause non seulement du carême, mais c'est la fête de Saint-Benoît. C'était la fête de Saint-Benoît autrefois. On la fête plutôt le 11 juillet maintenant, Saint-Benoît. La translation des restes est en vacances, n'est-ce pas, au mois de juillet. Les gens fréquentent les monastères bénédictins et peuvent participer ainsi à cette grande fête de Saint-Benoît. Aux environs de 1493, donc, 6-7 ans après sa mort, le gouvernement a confié à Henri Wölflin, W-O-Umlaut, L-F-L-I-N, la mission d'écrire une première biographie officielle de cet immense saint. Henry Veltlin était né en 1470. Donc, il n'a qu'à peu près 23 ans. Mais c'était un bourgeois de Berne, la capitale de la Suisse. Puis, il portait le titre déjà de maître essarts libéraux. Il a donc été nommé maître d'école par le conseil de la ville de Berne. Sa renommée de ce jeune homme brillant n'a pas tardé à traverser un peu la Suisse, surtout alémanique. Et ça s'est rendu jusque dans la région de Nicolas de Flue. C'est à cette date que se place l'initiative du gouvernement de la région de Nicolas de Flue, le gouvernement d'Obwald, qui lui a valu l'honneur d'écrire la vie de frère Nicolas. Des années durant, Veltlin a recueilli les déclarations orales des témoins oculaires, puis toutes sortes de notices qui avaient été composées, des dépositions qui avaient été faites sous la foi du serment, puis il a étudié à fond, en particulier le livre de l'église de Saxelne. C'est là qu'il a vécu surtout. On appelle ce livre, n'est-ce pas, le Kirchenbuch, ou le livre de l'église. Et vers 1501, donc 8 ans plus tard, son œuvre était terminée, et de l'original latin, bien voici une version qui a été dépouillée de tout ce qui pouvait être trop documentaire, afin de rendre ça plus lisible. Il s'adresse aux hommes de la région, aux femmes de la région, et puis il dit, pour répondre à votre désir, j'ai recueilli vos témoignages dignes de foi, je les ai rassemblés, je les ai classés, afin que puisse surgir une image véridique là, de la vie et des mœurs très louables de Nicolas de Flue. Je n'ai rien relaté qui n'ait été certifié sous la foi du serment, affirme ce Henry Veltlin. Puis il dit, j'ai utilisé de prudence, la même prudence qui vous avait inspiré déjà vous-même auparavant. Il raconte qu'un des 8 États confédérés est formé par les Unterwaldois. Ce sont surtout ces gens-là auxquels il s'adresse, les gens de cette région. Il raconte qu'ils vivent au milieu d'épaisses forêts et que le pays est bien agréable. Il a des sources, des prairies riches et des pâturages merveilleux. Mais il n'y a pas de vignobles parce que la vallée est étroitement encaissée entre des pentes de rochers abruptes au flanc desquels, même en été, il y a de la neige qui fond à peine. Je me souviens, quand je suis allé au monastère de la Pierre qui vire en juillet, c'était dans le fond comme ça d'une espèce de vallée dans le cœur de la France, et puis il y avait encore de la neige en juillet dans certains endroits, ou pas beaucoup, mais il y en avait. Très étrange. Notre auteur raconte que le blé rame et que le bétail abonde, et puis que là, dans cette région-là, bien, il y a des paroisses, plusieurs paroisses, que la forêt profonde les sépare, ces paroisses, et puis que le chef de l'État de la région n'entreprend rien sans l'assentiment du peuple. C'est une région très démocratique. Alors, il dit que dans ce pays, dans cette région plutôt, on appelle ça un pays des fois dans des langages, en Europe on dit souvent ça, hein. Alors, dans ce haut pays, là, ou dans ces montagnes, vivait une famille nommée aujourd'hui encore les Flüeler, ou les Deflü, du nom de la montagne où elle réside, où ils ont des troupeaux. Elle passait pour être notable et pieuse. Et puis, elle s'adonnait à l'agriculture, à l'élevage du bétail. Ils étaient toujours fidèles à la prière, puis aux offices religieux. C'était vraiment une bonne famille, comme il y en avait tellement. Vous savez, les plus jeunes, autrefois, il n'y a pas si longtemps, c'était comme ça, très généralisé. Alors, de cette souche est né, en 1417, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce Nicolas, dont voici la vie. Il était le fils de Henri et d'Emma Rubert. Alors que Nicolas était encore dans le sein de sa mère, et là, on tombe dans le merveilleux. Je vous le raconte pour ce que c'est. Donc, dès le sein de sa mère, il a vu au ciel une étoile qui éclipsait toutes les autres en clarté, la terre entière en était illuminée, et plus tard, dans sa solitude, il a raconté avoir vu cette étoile, la même qu'il avait déjà contemplée, étant dans le sein maternel. Il vit aussi un grand rocher, et cette huile sainte dont les chrétiens sont marqués au baptême. Or, il était déjà ermite, après avoir s'être marié, avoir eu 10 enfants. Quand il a révélé toutes ces choses et en grande simplicité à un prêtre de ses amis, il a ajouté aussitôt après sa naissance, il avait reconnu sa mère et la sage-femme, tout de suite. Et puis il avait remarqué l'eau qui coulait dans les rochers et à travers laquelle il a été porté pour être baptisé. C'est dans cette vallée qu'il passait maintenant sa vie. Dès son enfance, il était le meilleur des garçons, dit-on, évidemment. On raconte toujours ça. Mais c'est possible, pourquoi pas? Il y a de très bons garçons, de très bonnes filles aussi. Il était soumis aux leçons de ses ancêtres. Il gardait fidèlement tout l'héritage de sa famille, l'héritage moral. Les enfants, évidemment, qui se conduisaient plutôt mal, ne l'aimaient pas. Mais tout le monde l'aimait. Le soir, à l'heure du repos, quand tous rentraient à la maison, fatigués du travail de la journée dans les champs, Nicolas restait à l'arrière. Il préférait prier. Et même, il jeûnait en secret. Même les 40 jours du carême, et si sévèrement, on dit qu'il ne s'accordait qu'un quignon, petit morceau de pain, et quelques poires sèches. Dans son pays, les poires sèches passaient alors pour une friandise, c'est une région plutôt pauvre. Et lorsqu'on le blâmait de suivre un régime si austère, qui pouvait nuire à sa jeunesse, mais il répondait que cela était agréable à Dieu. Oui, le jeûne peut être agréable à Dieu, c'est une forme de purification. N'oublions pas que Jésus a jeûné pendant 40 jours. D'accord, il pouvait manger à la table des gens qui l'invitaient, on le sait. Mais il pouvait aussi être bien strict à l'égard de la nourriture. D'ailleurs, pour ceux qui acceptent les apparitions de la Vierge à Medjugorje, rappelons qu'elle demande que l'on jeûne. Lorsque Nicolas a passé de la jeunesse à l'âge mûr, il s'est marié donc à Dorothée. Et puis, ils ont eu de nombreux enfants, comme vous savez. Et élevé dans la crainte de Dieu, de l'amour du bien, mais ses enfants ont cherché de toute leur force à imiter leur père. Nicolas n'a pas pris part aux guerres très facilement quand les autorités lui ont demandé de prendre les armes. Il était un grand ami de la paix. Néanmoins, comme il s'agissait de sa patrie, il n'a pas voulu que les ennemis puissent se glorifier d'une victoire qui aurait pu être due à son inaction. Mais quand les ennemis étaient vaincus, il prêchait la modération. C'était un pacificateur. C'est le saint de la paix, d'ailleurs. Pourtant, il a porté les armes. Autant qu'il le pouvait, mais fuyait les honneurs du monde. Mais on raconte que le démon s'est attaqué à lui. Il voyait avec envie la grande piété qui animait cet homme de Dieu. Et alors, un jour, Nicolas, accompagné de son fils Jean, était allé à travers une région, là, une vallée. Il se rendait à son alpage, c'est une prairie, n'est-ce pas, dans la montagne, pour jeter un coup d'œil sur l'état de son troupeau, et tandis que le fils ramassait le fourrage, mais le père, en paysan avisé, lui, il fouillait dans les broussailles pour ramasser des choses, et l'esprit malin, dit-on, a empoigné Nicolas, l'a projeté à 30 pas plus bas dans un buisson d'épines, et son fils est allé le retrouver, puis il a dit simplement, « Oh, le diable m'a rudement empoigné, bousculé. » Chose étrange, on raconte ça dans la vie du curé d'Ars. C'est étrange, ces histoires. Moi, ça me laisse toujours un peu pantois, mais même il y a eu Madame Brault à Montréal. Hein, c'était raconté par un prêtre sérieux. Or, une autre fois, il est venu dans ses prés pour examiner son bétail, puis il lui est arrivé toutes sortes d'événements que je vous raconterai tout à l'heure. Il a eu des visions et des choses bien mystérieuses. Je ne vous les raconterai pas toutes, mais je vous en raconterai quelques-unes. On raconte que, venu dans la prairie là, pour examiner son bétail, Nicolas s'assit à terre. Selon son habitude, il se met à prier dans l'intime de son cœur, à contempler les vérités spirituelles, les choses célestes, qui existent beaucoup plus réellement, finalement, que nos objets, nos maisons, nos meubles, nos choses qui vont disparaître en poussière dans quelques siècles, tout disparaît. Où sont les meubles du 12e siècle? Où sont les objets du 8e siècle, très rares dans les musées, c'est très rare, hein, tout disparaît. Où sont les constructions de cette époque, très rares, exceptionnelles. Et alors il a vu soudain sortir de sa bouche, dit-on, un lys blanc. On tombe dans le surréalisme merveilleux, c'est très beau. C'est un songe qu'il fait. Il voit soudain donc sortir de sa bouche un lys blanc d'un parfum merveilleux qui s'élève jusqu'au ciel. Et sur ces entrefaites, le troupeau, dont il tirait la nourriture pour sa famille, est venu à passer devant lui. Un seul instant, il baissa les yeux. Alors il a considéré avec plaisir son cheval, qui était plus beau que les autres. Et alors, il a vu le lys sortir de sa bouche et s'incliner sur le cheval. Et la bête l'a dévoré, l'a englouti. Instruit par cette vision, se demandait qu'est-ce que ça pouvait signifier. Et il a reconnu qu'on ne peut atteindre au bien céleste aussi longtemps qu'on désire le bonheur terrestre. Puis il a compris que les dons divins sont étouffés dès qu'ils sont mêlés aux soucis puis aux affaires de cette vie, parce qu'il est préoccupé des choses de cette terre. Et c'est comme ça que le lys a été dévoré. Et pour lui, la semence de la parole qui tombe parmi les épines, c'est pas ce qu'il faut. Il faut que, vraiment, la parole tombe dans des cœurs généreux. Il a compris aussi à travers d'autres visions que c'est l'aumône qui tient le premier rang. On dit que il a eu des visions très variées et très surréalistes et très belles. Mais il y a un événement qui est rapporté par le biographe qui dit qu'il est d'une authenticité garantie. Nicolas de Flux allait un jour travailler dans sa prairie. Et en chemin, il a prié Dieu pieusement de l'aider. Alors un nuage est descendu sur lui. Et une voix en est sortie. C'est comme dans l'Évangile, hein, au baptême de Jésus. Il te serait bien inutile de t'appuyer sur tes seules forces et de ne te soumettre à la volonté de Dieu que par contrainte, car rien n'est plus agréable à Dieu que l'obéissance volontaire. C'est des paroles très profondes, hein? Rien ne sert de s'appuyer sur ses propres forces. Il faut se soumettre à la volonté de Dieu, non pas par contrainte, mais dans une obéissance volontaire et joyeuse, faite par amour, quoi. Et c'est après avoir été mis en garde par cette voix qui est sortie du nuage qu'il a commencé à prêter moins d'attention aux affaires de sa maison avec sa femme et ses enfants, dont il s'était occupé jusqu'alors avec beaucoup de soin. Là, il s'était donné de plus en plus à l'oraison, à la prière. Et son cœur s'affermissait ainsi de jour en jour dans la piété. Et on dit que la grâce de Dieu a exercé bientôt sur lui une telle attraction que la terre entière ne lui semblait pas possible pouvoir lui offrir un lieu de séjour qui pouvait le satisfaire. Il a senti cet appel de Dieu, un appel dévorant, qui ressemble beaucoup à celui de Marie Guyard, qui est devenue Marie de l'Incarnation et qui a vécu à Québec, hein, et qui a dû, sous cet appel de Dieu, quitter son pauvre fils Claude Martin, du nom de son père. Et elle l'a quitté, il avait 9 ans, elle l'a mis, confié à son frère, mais il est devenu abbé bénédictin. Il est devenu un homme admirable, qui a laissé des écrits superbes. Un jour, je vous parlerai de Don Claude Martin, ce fils abandonné, mais qui est devenu un homme extraordinaire. Alors, il s'ouvre, Nicolas de Flux, de son projet, il parle de son projet à son épouse, qu'il aimait profondément, s'était toujours montré fidèle, puis une très bonne conseillère à son égard. Alors, elle veut rien entendre de ça, évidemment. Alors, il a beau essayer de la convaincre, il n'y arrive pas. Alors, il en acquit l'intuition, encore plus claire, que sa vie actuelle de chef de famille était incompatible avec ses aspirations de s'éloigner du monde. Il entend toujours cet appel. Alors, il a tellement insisté auprès de sa femme qu'elle finit par abandonner. Et puis, elle lui donne son consentement. Alors, il est heureux de l'accord enfin obtenu. Il serre sa femme dans ses bras. Il se met en quête d'un endroit propice pour réaliser son projet. Il se dit que s'il restait au pays, bien les mauvaises langues pourraient dire que ses idées sont hypocrites. Alors il décide de s'éloigner le plus loin possible. Il veut même quitter le sol de la Suisse. Mais alors qu'il a traversé la chaîne du Jura qui sépare la Suisse de la Bourgogne, il arrive à Liestal, première ville étrangère, proche du Rhin, non loin de Bâle, où habitait justement notre bon ami le cardinal, celui qui a été nommé cardinal à la veille de sa mort, Urs von Balthasar. Saint-Nicolas de Flux se dirige donc vers un village voisin, lit conversation avec un paysan, puis il lui dit pourquoi il fait ce pèlerinage. Le paysan trouve que c'est bon, mais il lui fait observer qu'il fait mieux de ne pas quitter la Suisse, parce que la Suisse est crainte par ces régions-là. Elle n'est pas aimée. Il serait plus sûr de chercher un endroit dans son propre pays, en Suisse. Il est ému par tous ses conseils, et puis il quitte le paysan, passe la nuit au pied d'une haie dans un champ voisin, puis à peine s'est-il endormi qu'un rayon lumineux, encore un songe, vient du ciel, l'environne de clarté, c'est l'impression qu'il a au fond de son cœur, et il en éprouve une douleur telle qu'il lui semble qu'un couteau transperçait son corps de part en part, en même temps qu'une corde, il lui semblait, le tire en arrière pour lui faire comprendre qu'il devait reculer et rentrer au pays. Alors, tout de suite à l'aube, le matin, il rebrousse chemin. Et toutefois, il rentre pas dans la maison de son ancienne maison où il a laissé sa femme et ses enfants. Il monte tout droit dans le terrain où il a un troupeau. Il y séjourne 8 jours dans un fourré d'épines sans boire ni manger. Personne ne savait où il était. Et Nicolas de Flux est finalement découvert par des chasseurs qui courent après un gibier. Alors, ils avertissent son frère, et le frère de Nicolas de Flux, qui l'aimait beaucoup, le supplie au nom de l'affection profonde qu'ils se portent l'un l'autre de ne pas se laisser mourir de faim en jeûnant. Et là, vous allez voir le jeûne incroyable qu'il pratique. Nicolas réplique, « Là-dessus, sois sans inquiétude, je ne suis pas encore mort de faim, et jusqu'ici, je ne cours aucun risque. » Alors bientôt, les gens du pays sont venus nombreux en pèlerins, jusqu'à lui. Il est importuné par le bruit qui entoure sa solitude. Alors il franchit plusieurs torrents, des gorges, et il s'y monte. Un jour, il voit 4 rayons lumineux se poser comme des cierges allumés sur la partie de la vallée qu'on appelle le Rampft. Alors il a appris par là que c'était là l'endroit que le ciel lui destinait pour servir Dieu. Et avec l'aide de quelques voisins, il se met à bâtir au Ranft, ça s'appelle R-A-N-F-T, une petite hutte de bois. Il y vit 1 an. Là, les Unterwaldois, les gens de la région, quoi, reconnaissent qu'il n'a rien d'un hypocrite, qu'il est devenu un ami de Dieu. Ils décident de bâtir à cette place, à leurs frais, une chapelle en l'honneur de la Sainte Vierge. Au mur du fond, ils mettent un ermitage qui est construit en sapin, selon la mode du pays. Dans cette cellule, Nicolas peut, sans être vu, porter ses regards sur l'autel de sa chapelle, et tout cela se fait malgré l'opposition de quelques-uns de ses proches qui estiment, eux, qu'il aurait été bien préférable de ne pas se donner tout ce trouble, puisqu'il va mourir de faim. Mais on commence, puis on finit l'œuvre, et puis on la remet sans condition à Saint-Nicolas de Flux, pour qu'il en fasse sa demeure. Alors là, le Saint-Nicolas de Flux s'établit dans ce lieu, il s'abandonne entièrement à la protection divine. Alors on le prie en toute confiance de faire ce qu'il est bon, puis on lui demande des conseils. Un prêtre vient et lui touche les mains et les pieds, il l'examine de tout son corps pour voir s'il n'est pas en train de mourir de faim. Il voit son visage hâve, comme on dit, ses joues creuses, ses lèvres desséchées, son corps qui est émacié. Et puis, il lui conseille quand même de continuer, parce qu'il voit que, avec l'aide de Dieu, ce jeûne miraculeux pourrait peut-être se continuer. Et Nicolas s'y soumet avec une héroïque courage. Il persévère jusqu'à la fin de sa vie. Pendant près de 20 ans, il ne mangera pas. Et le bruit de ce jeûne extraordinaire se répand parmi ses compatriotes, qui commencent à en discuter dans le sens très divers, et les uns voient là un dessein miraculeux de Dieu. Ils y ajoutent foi, mais d'autres qui méprisent une pareille affaire supposent que des aliments qui lui sont portés en secret. Mais le conseil de la région Mais des guetteurs et tout le ravin de la région de Ramt est scrupuleusement gardé et surveillé afin qu'aucun être humain ne puisse, sans être vu, avoir accès à Saint-Nicolas de Flux. Puis là, la consigne est observée pendant un mois entier avec la plus grande rigueur et personne, on le voit bien, ne lui apporte de nourriture. Je vous raconte cette vie d'après les documents de l'époque. Et vous entendez d'ailleurs de la musique de l'époque, du Josquin des Prés. Les gens étaient très inquiets dans la région d'Unterwald. On avait peur que les gens des autres régions s'imaginent que c'était une blague, cette histoire que Nicolas de Flux vivait sans manger ni boire. Alors l'évêque auxiliaire, Thomas, qui était le suffragant de l'évêché de Constance, dont relevait une grande partie du territoire de la Suisse, de la Confédération suisse, a été appelé à procéder à une enquête sérieuse. Il est venu bénir la chapelle de la Mère de Dieu qu'on avait construite. Il est entré dans la cellule de Nicolas. Il a passé une grande partie de la journée avec lui, à causer de choses spirituelles pour vérifier s'il n'était pas un peu malade, un peu fou. Mais pas du tout. Tant d'autres choses, il lui a demandé quelle est la vertu la plus haute et la plus agréable à Dieu. Nicolas a répondu, l'obéissance. Mon Dieu, qu'on parle plus de ça aujourd'hui. Mais c'est l'obéissance amoureuse, c'est-à-dire que ta volonté soit faite. C'est dans la prière que Jésus nous enseignait que ta volonté soit faite. C'est pas une soumission stupide, c'est adhérer au cœur de Dieu avec amour, se jeter dans les bras de Dieu. C'est ça l'obéissance. Et l'évêque Thomas a pris aussitôt du pain et du vin qu'il avait apporté pour l'éprouver. Là, c'est une obéissance différente. Mais l'éprouver, de partager le pain en trois petits morceaux. Il lui ordonne de les manger, au nom de la sainte obéissance. Alors Nicolas ne veut pas résister à l'ordre d'un évêque, mais il craint, vu son jeûne prolongé depuis des années, d'en être incommodé. Alors, il demande à l'évêque de ne manger qu'une seule bouchée, qui serait partagée en trois petites parcelles pour éviter que son estomac soit trop troublé. Il y a de la misère à l'avaler. Oh, c'est pas facile. Alors, c'est avec grand-peine aussi qu'il absorbe un peu de vin, sans avoir des nausées. Le prélat est bouleversé. Il déclare que l'épreuve est entièrement favorable à Nicolas. Il ajoute que c'était pas sans raison, c'était pas en raison plutôt de doute personnel, mais uniquement parce que son évêque à lui qui était suffragant, qu'il avait été obligé de faire ça. Et pour que l'authenticité de ces choses soit plus fermement garantie, on peut dire que peu de temps après l'évêque Hermann étant mort, eh bien l'évêque Otto a été appelé à la tête du diocèse de Constance. Et celui-là avait entendu raconter tant de choses extraordinaires sur Nicolas qu'il a voulu le connaître personnellement. Il est venu voir le Saint Nicolas dans son ermitage. Et après avoir eu avec lui de longs entretiens, il a loué avec insistance auprès de tout le monde la sainteté de sa vie et de ses mœurs. Il a affirmé ouvertement qu'il se sentait comblé de bonheur et de bénédiction parce que Dieu avait suscité dans son diocèse un pareil ermite qui lui obtiendrait bien, il l'espérait, des grâces dans toutes ses difficultés d'évêque. Ce que nous avons appris d'un certain frère Ulrich, raconte notre auteur, constitue une des plus fortes et des plus irrécusables preuves de l'abstinence et du jeûne total de Saint-Nicolas de Flux. La chose, dit-il, nous a été transmise d'une manière digne de foi. Au temps où Nicolas portait encore le fardeau des soucis domestiques, eh bien la fin de sa vie lui fut révélée. Il était déjà établi dans la solitude quand Ulrich, qui lui a rendu visite à plusieurs reprises, est venu. Et frère Nicolas lui a confié différentes choses personnelles, lui révélant même l'heure de sa mort. Beaucoup de saints ont connu l'heure de leur mort, hein, vous savez ça. Hein? Et puis, Ulrich a gardé discrètement ces choses dans son cœur pendant de nombreuses années. Mais quand est arrivée la dernière année où il savait que Saint-Nicolas allait mourir, il était saisi du désir de vérifier la vérité de cette révélation. Alors il a rejoint frère Nicolas dans sa solitude. Il l'a supplié puis obtenu l'autorisation de s'installer dans une cellule voisine. Il lui a promis, là, de se soumettre à tous ses avertissements puis ses ordres. Et le terme de leur accord, ainsi établi, mais là, la prière de Nicolas de Flux a valu à Ulrich de monter si haut dans la vie mystique
qu'il a pu lui-même passer 13 jours sans aliment ni boisson et sans être tourmenté par la faim ni par la soif. Et puis là, frère Nicolas a partagé en deux moitiés un pain qu'il s'était procuré pour éprouver Ulrich. Il en a donné un morceau à Ulrich, lui ordonnant de le tremper dans l'eau de la source là et de le manger. Il a obéi, il a pris la bouchée, il a mangé par obéissance, mais à contre-cœur, en dominant à grand-peine son appétit. Puis le lendemain, alors que la même chose se passait avec la seconde moitié du pain, notre pauvre Ulrich a été saisi d'une telle fringale, ça lui était pas possible de résister. Il a fallu qu'il l'apaise, alors Saint-Nicolas avait bien prévu ça. Il avait pris soin que sa femme lui fournisse la nourriture nécessaire. Et une fois rassasié, ben Ulrich a demandé à cet ami de Dieu qui était Saint-Nicolas, pourquoi il n'y avait pas permis de persister dans son jeûne. Et Nicolas lui a répondu qu'une épreuve était suffisante, que la volonté de Dieu en avait ainsi disposé. Et notre pieux frère Ulrich est demeuré en ce lieu, mais en prenant désormais sa nourriture habituelle, et au moment qui lui a été révélé, son ami Saint-Nicolas est mort. Tous ceux qui ont entendu parler de ces choses s'émerveillaient que Saint-Nicolas de Flux, ou frère Nicolas de Flux, puisse vivre comme ça en dehors des lois de la nature, sans manger ni boire, comme notre Marthe Robin en plein XXe siècle. À sa prière instante, Nicolas a confié à un prêtre, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui allait souvent le voir, que lorsqu'il assiste au saint sacrifice de la messe et qu'il voit le prêtre prendre la chair et le sang du Christ, il en reçoit lui-même une réflexion, un soulagement énorme. Ça lui donne de l'énergie, quoi. À quelques-uns des confidents les plus intimes qui le pressent, il dit que la méditation de la passion du Christ, et plus spécialement à l'instant où l'âme de Jésus s'échappe de son corps, ça remplit son cœur d'un réconfort inexprimable. Cette contemplation de Jésus le fortifie, au point qu'il lui est facile de se passer de la nourriture ordinaire des hommes. Alors, il manque pas de gens, cependant, pour supposer que même un corbeau peut-être vient lui porter de la nourriture. Frère Nicolas confesse ses péchés à son curé aux grandes fêtes, et plus tard, au bout de 10 ans de solitude, il préfère se confesser chaque mois. C'est ce qu'on devrait tous faire, se confesser chaque mois. Il se confesse à son chapelain. Il reçoit alors le corps et le sang de notre Seigneur. Et grâce aux aumônes des pèlerins, bien, il a fondé pour son chapelain un bénéfice auprès de son ermitage. C'est-à-dire que le chapelain peut survivre. D'un bout à l'autre de l'année, Saint-Nicolas fut ne couvre son corps nu que d'un simple et long vêtement de laine, une cotte grise qui descend jusqu'aux chevilles. Il ne porte ni souliers ni coiffure. Il dort étendu tout son long, à même le plancher. En guise de coussin, il glisse sous sa tête une pièce de bois ou une pierre. Et pendant les grands froids, il s'enveloppe dans une ample couverture. Et c'était comme ça l'ordre habituel de sa journée. Il passe la première partie du jour, depuis le lever du soleil jusqu'à midi, dans la prière et la contemplation. Puis l'après-midi, quand le ciel est clair, il s'assoit dehors, au soleil. Lorsqu'il le juge utile, il monte sur la hauteur voisine, rend visite à ce pieux Ulrich, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ulrich est captivé par la sainteté de Saint-Nicolas. Il s'était établi, comme je vous ai dit, dans la même solitude. Et il avait lui-même une grande réputation de piété. Et après que les deux ermites s'étaient entretenus de choses spirituelles, Nicolas regagnait seul sa cellule. Malgré sa vie austère et pénitente, bien Nicolas de Flux n'a pas pu empêcher les embûches du démon qui s'acharne sur lui, comme il s'est acharné sur le curé d'Ars et, comme je vous ai dit, sur peut-être Madame Brault, on ne sait pas trop. Là. Mais Nicolas réussit à passer à travers ces difficultés-là. Il remerciait Dieu souvent devant ses amis intimes de ce qu'après avoir coupé tous les liens avec les soucis de sa famille et les affaires du monde, en accord avec sa femme, évidemment, il n'avait jamais été tourmenté du désir de retourner dans son foyer. Il est vrai que de temps en temps, il permettait à sa femme et à ses enfants de venir à lui dans sa solitude pour recevoir l'aide de ses conseils de père, de conseils paternels. Il leur enseignait évidemment, avec la sagesse de son âge, à vouer leur vie en toute humilité au service de Dieu. Mais tous les pèlerins n'ont pas accès auprès de ce grand serviteur de Dieu, car, comme le disait Nicolas, beaucoup ne viennent à lui non pas pour s'édifier, mais avec des préjugés, comme des pharisiens. C'est pourquoi il fuit ceux dont il a pénétré la vanité intérieure. Je me souviens quand je suis allé voir Padre Pio, dont c'est la fête aujourd'hui, l'anniversaire du décès. Eh bien, c'est incroyable et curieux. Moi-même, j'étais plutôt un peu curieux. Mais ceux qui étaient admis à lui parler, il les saluait amicalement, il les instruisait avec respect. Nicolas ne connaissait pas l'alphabet, il ne savait ni lire ni écrire. Mais il avait reçu de Dieu une sagesse profonde. À cette époque, peu de gens savaient lire et écrire, on le sait, surtout dans les montagnes. Lorsque des gens simples viennent l'interroger sur la justice de Dieu, il leur répond avec bonté que chacun doit s'en tenir fidèlement aux instructions qui sont contenues dans les Écritures, dans les Évangiles. Et ils doivent chercher leurs forces pour les mettre en pratique. Et alors, il n'est pas rare qu'il soit consulté sur des questions brûlantes qui intéressent son pays, la Confédération suisse. Ses conseils exhortent toujours à la paix dans la patrie, à la concorde entre les différents cantons, à la louange de Dieu, à l'obéissance à ses commandements. Il prédit souvent aux personnes présentes l'heure de l'arrivée de pèlerins qui viennent de très loin. Beaucoup ont pu constater de leurs yeux émerveillés l'accomplissement de ces prédictions-là. Chose curieuse. Alors on reste véritablement étonné devant le fait un jour qu'un étudiant de Paris, eh bien, il avait reçu du fils cadet de Saint-Nicolas de Fus, qui étudiait à Paris, des lettres à remettre à son père, puisque cet étudiant de Paris se rendait en Suisse. Or, il arriva au cours de ce long et pénible trajet que l'étudiant perd une de ses lettres en Bourgogne. Alors, il a peur du mécontentement de Saint-Nicolas de Fus, le cœur battant, qui se décide à se rendre auprès de lui. Mais comme il approche du Rampft, dont je vous ai parlé, où il habitait, là, il aperçoit Nicolas, qui vient à sa rencontre, puis il a dans sa main la lettre qui était perdue. Nicolas salue aimablement cet étudiant, qui est le messager de son fils, le reconnaît pour être bien celui à qui son fils avait remis cette lettre qui était perdue en Bourgogne, et que lui, Nicolas, tient maintenant dans ses mains. Ce miracle a rempli l'étudiant de joie et d'admiration. Quand était accompli le temps fixé par Dieu, où Saint-Nicolas devait terminer cette vie ici-bas, et devait avoir accès aux grandes joies éternelles du ciel, il a permis qu'il ait à souffrir d'une grave maladie qui lui envahit tout le corps. C'est pas que Dieu lui a envoyé la maladie. La maladie a surgi. Et dans l'angoisse de son âme, Nicolas se plaint de douleurs internes dans ses os, les tendons. Sa chair est comme morte et desséchée. Il se tourne de côté d'autre, sans trouver jamais de soulagement. Pauvre Nicolas de Fus, hein? Et lorsqu'il a eu ainsi souffert pendant 8 jours, dans une détresse terrible, mais avec une patience courageuse, il a désiré ardemment recevoir le corps et le sang du Christ. Et après qu'il l'a reçu, avec une très grande dévotion, il était étendu, à son habitude, sur le sol nu. Eh bien, il a exhalé son âme en rendant grâce à Dieu au milieu de ses douleurs, et c'était le 21 mars de l'an 1487, après la naissance de Jésus-Christ. Nicolas de Fus avait 70 ans. Alors, selon la coutume du pays, on a chargé la dépouille de Nicolas de Fus sur un brancard. On la porte, comme Nicolas l'a ordonné de son vivant, à Saxelln, dans l'église de Saint-Théodule, évêque du Valais. Là s'étaient réunis autour de sa femme, de ses enfants et de la parenté une immense foule de prêtres et de paysans venus de tout l'Unterwald. Après la célébration de nombreuses messes, il a été enseveli avec honneur. Il a été regretté de tous et pleuré par beaucoup. Le lendemain, sa femme, Dorothée, est venue sur sa tombe pour prier. Un messager lui l'approche, qui la console. Il lui dit qu'il a vu sur ce rocher, qui est à l'origine du patronyme de la famille, le Nicolas de Flux. C'est d'un rocher que vient ce nom. Eh bien, il avait vu le défunt Nicolas, qui était tout rayonnant de lumière. La constance de cet homme, extrêmement courageux, a vaincu, on peut dire, les puissances maléfiques, les puissances négatives que nous ressentons tous au fond de nous-mêmes, qui sont à la fois psychologiques, mais pourquoi ne serait-elle pas aussi des puissances d'esprit mauvais, comme le dit l'Évangile. Et le peuple chrétien a recueilli déjà de son vivant, comme des perles, des enseignements, les paroles de Saint Nicolas de Flux. Quand la mort le ravit à son peuple, Dieu n'a pas laissé ce peuple suisse sans consolation dans ses épreuves quotidiennes. Et jusqu'à nos jours, Dieu n'a jamais cessé de favoriser la Suisse par de nombreux miracles qui sont dus à l'intercession de frère Nicolas. Dans des ouvrages sur Saint Nicolas de Flux, on raconte d'innombrables miracles. Bon, une trentaine de miracles sont racontés dans le récit dont je m'inspire pour vous parler. Je vous en fais grâce. En résumé, on en croit à peine ses oreilles quand on entend raconter par combien d'éclatants miracles l'intercession de Saint Nicolas se manifeste jour après jour. Il n'est presque pas de maladie qui n'ait été guéri par son intervention, et le plus souvent ce sont des malades qui sont atteints de fièvre, dont les prières ont été exaucées là-bas, qui ont offert des ex-voto après leur guérison. Des ex-voto, n'est-ce pas, c'est des objets, soit un tableau, soit une plaque que l'on applique au mur. C'est ça un ex-voto. Je le dis pour les gens qui ne connaîtraient pas ça. Ex-voto, V-O-T-O. Alors, ces faits ne sont pas connus seulement de son chapelain, mais de tous les vieux paroissiens de Saxelne. Alors voilà, dit l'auteur de ce texte, Henri Wölfflin, vois ça, homme de l'Unterwald, ce qui m'a été communiqué sur votre bienheureux père et concitoyen Nicolas pour que j'écrive l'histoire de sa vie. Bien que tout cela soit vrai, vous ne devez cependant pas vous laisser séduire au point de vous en glorifier inconsidérément, mais plutôt attachez-vous d'autant plus profondément à faire croître en vous la sainte religion chrétienne catholique. De quel don plus précieux le Dieu Tout-Puissant pouvait-il combler votre pays que de le conduire et de le conserver sous la protection du bienheureux ermite, intact et paisible à travers les temps si troublés que nous vivons. Chacun sait que jusqu'à ce jour, son intercession a fréquemment secouru non seulement ses concitoyens d'Unterwald, mais la Confédération suisse tout entière, et vous devez donc mettre tout en œuvre pour que les bienfaits d'un pareil intercesseur servent à la gloire de Dieu et à votre propre édification. Si vous faites cela, vous n'aurez jamais lieu à l'avenir de vous plaindre d'avoir été privé de son assistance. Et il ajoute, en terminant, j'ai rédigé ce livre en toute bonne foi et avec une affection sincère pour les gens d'Unterwald. À vous maintenant de le répandre, afin que les fidèles de frère Nicolas de Flux puisse répondre plus facilement aux attaques d'ennemis jaloux, s'il en existe encore, qu'ils sachent garder sous leurs yeux l'exemple de sa piété et allumer dans un grand nombre d'âmes le désir de suivre le Christ et d'imiter son fidèle serviteur Nicolas. Je prie le lecteur bienveillant de ne pas s'irriter s'il se heurte à quelques mots impropres ou trop peu raffinés. Plus qu'à polir mon style et à limer mes phrases, j'ai mis tous mes soins à serrer de près la vérité. Donc, on peut croire que cet auteur était profondément sérieux et qu'il a raconté la vérité. Dans notre saint de ce jour paru aux éditions de l'Œil, 12 petits volumes, un pour chaque mois, on voit au 21 mars Nicolas de Flux, C'est pas vraiment le 21 mars, ça devrait être le 25 septembre, mais enfin. On rapporte des paroles. Voici les paroles de Nicolas. Pénétrez-vous de cette pensée. Dieu seul est la source du vrai bonheur. Pénétrez-vous de cette pensée. Dieu seul est la source du vrai bonheur. Quand dans son mariage on met Dieu, bien des chances que ce mariage soit heureux. Quand on met au cru de sa vie, qu'on soit ouvrier, médecin ou n'importe quoi, quand on met Dieu, c'est lui qui est la source du bonheur au cru de son travail. Voici une autre pensée. La marque indéliable que l'on aime véritablement Dieu, c'est la soumission à sa volonté sainte. Il faisait cette belle prière d'offrande. « Mon Seigneur et mon Dieu, enlevez-moi tout ce qui m'éloigne de vous. Accordez-moi tout ce qui me rapproche de vous. Prenez-moi moi-même pour me donner tout à vous. » C'est curieux, hein? C'est beau. « Prenez-moi à moi-même pour me donner tout à vous. » En somme, son petit moi, il veut que Dieu le prenne et le brûle. Et le brûle. Dans les bréviaires aujourd'hui, on lit une lettre de Saint Nicolas de Flux aux Bernois. J'en profite pour dédier cette émission à ma filleule qui vient de Berne, Madeleine Widmer, épouse de Louis Samuel Widmer, ancien président de la Swiss Bank Corporation, et elle, fille de l'ancien président de Suisse. Ils se sont tous les deux convertis au catholicisme. Et je suis le parrain de Madeleine. Voici cette lettre. Que le nom de Jésus soit votre salut. Nous vous souhaitons beaucoup de bien. Et nous vous remercions pour celui que vous nous faites. Que le Saint-Esprit soit votre dernière récompense. C'est beau, hein? Je vous remercie profondément et grandement pour votre aimable présent, car j'y reconnais votre paternel amour. S'il est question devant Dieu, devant les hommes de métier, de mériter votre amour, j'y mettrai toute ma bonne volonté. L'obéissance est le plus grand bonheur qu'il y ait au ciel et sur la terre. Aussi bien tâchez de vous obéir mutuellement. La sagesse est le plus aimable des biens, car elle fait tout entreprendre pour le mieux. La paix est toujours en Dieu, car Dieu est la paix. Et la paix ne peut être détruite, mais la discorde est détruite. Cherchez donc à garder la paix. Protégez les veuves et les orphelins comme vous avez fait jusqu'ici. Celui dont le bonheur est plus grand sur la terre, qu'il en soit reconnaissant à Dieu, et alors son bonheur sera aussi plus grand dans le ciel. Il ajoute aussi, vous devez porter la passion de Dieu en votre cœur, car c'est pour l'homme la plus grande consolation de sa dernière heure. J'aime beaucoup ça ici. Beaucoup d'hommes ont des doutes au sujet de la foi, et le diable en fait succomber beaucoup à propos de la foi, surtout à propos de la foi. Il ne faut pas douter des vérités de la foi, car elle est comme elle est. Et je ne vous écris pas parce que je pense que vous n'avez pas la foi. Je ne doute pas que vous ne soyez bon chrétien. Je vous écris pour vous avertir afin que si le mauvais esprit vous tente, vous lui résistiez d'autant mieux en vrai chevalier. C'est tout. Dieu soit avec vous. Au soutenu par la prière de Saint Nicolas de Flux, nous te supplions humblement, Seigneur Père, garde-nous sous ta constante protection et donne à ceux qui nous dirigent la lumière de ta grâce. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen.